La Bible parle de certains qui sont élus selon la prescience de Dieu. Cela signifie-t-il qu'il fixe à l'avance le sort des humains, les uns destinés à être sauvés, les autres voués à la perdition? Nous nous proposons de traiter cette question poursuivant ainsi notre étude du livre des livres, la Bible. Dans cette émission, nous examinerons plus particulièrement la première épître de Pierre. Ces émissions internationales se rapportant à l'étude et à l'explication de la Bible sont l'œuvre de l'Association des étudiants de la Bible Aurore, éditeur des publications Aurore, en coopération avec les groupes locaux et nos amis de partout. L'apôtre Pierre adresse sa première épître à ceux qu'il considère comme étant étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. L'on doit comprendre sans doute qu'ils étaient des étrangers pour lui, du fait qu'il ne les connaissait pas personnellement. Nul doute qu'ils ne fussent des frères, puisque dans le verset suivant, il parle d'eux comme étant « élus selon la prescience de Dieu, le Père ». Pierre, qu'a donc voulu dire l'apôtre par ses paroles concernant ces chrétiens, « élus selon la prescience de Dieu » ? Telle est la question à laquelle je voudrais bien que tu répondes.
Vois-tu, Thomas, dans le développement du plan de Dieu, il y a une sélection marquée, non pas une sélection d'individus destinés à être sauvés sans considération de leurs mérites respectifs, mais une sélection ou prédestination de différentes classes, répondant au but que Dieu s'est proposé d'atteindre pendant la période assignée à cet effet.
N'est-ce pas l'apôtre Jacques qui, prenant la parole à Jérusalem, a dit « Toutes choses faites par le Seigneur lui sont connues de toute éternité. »
Oui, et ses œuvres connues d'avance par Dieu comprenaient son appel d'Abraham aussitôt après le déluge, et la merveilleuse promesse qu'il lui fit que par sa semence, toutes les familles de la terre seraient bénies. Dieu connaissait d'avance les douloureuses expériences par lesquelles les descendants naturels d'Abraham devraient passer. Il leur envoya ses prophètes et, poussés par son esprit, ils annoncèrent le premier et le second avènement du Messie, l'appel et le développement de l'Église pendant l'âge de l'Évangile, l'établissement du royaume messianique à la fin de cet âge, et les bénédictions qui s'étendraient à toutes les familles de la terre grâce à ce royaume dont le gouvernement serait assuré par les membres fidèles de la semence annoncée à Abraham.
Et Dieu pouvait connaître d'avance tout cela sans qu'il eût à exercer une contrainte quelconque sur les intéressés.
Parfaitement.
Pierre, je remarque que dans le premier chapitre de sa première épître, l'apôtre Pierre emploie plusieurs fois le mot « salut ». Au 9e verset, il fait mention du « salut de vos âmes ». Que signifie exactement le mot « salut » et qu'est en particulier le « salut des âmes » ?
Eh bien, salut veut tout simplement dire être sauvé.
Sauvé de quoi et comment?
Par Christ. Dieu a donné aux humains la possibilité d'être sauvés de la mort adamique, la mort à laquelle la race entière fut condamnée par suite de la transgression de la loi divine par Adam. Paul explique cela très clairement en disant « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. »
Cela veut-il dire que ceux qui sont sauvés de la mort vont au ciel?
Non, pas nécessairement.
Mais l'apôtre Pierre dit au verset 3 et 4 de ce chapitre que nous avons un héritage réservé dans le ciel.
C'est vrai. L'apôtre Pierre parle ici du salut qu'obtiendront ceux de cet âge qui se qualifient comme membres de la classe qui est formée et développée selon la prescience de Dieu. Cette classe est spirituelle, céleste. Comme nous l'avons vu, ceux-là sont appelés et préparés pour devenir le canal apportant des bénédictions à la race mourante qui reviendra à la vie. Grâce à cette classe, tous les humains pourront être restaurés à la vie, non pas au ciel, mais sur la terre.
Autrement dit, le salut général promis par tous les prophètes de Dieu consiste en un anéantissement de la mort par une résurrection de tous les morts. Tous auront l'occasion de vivre éternellement sur la terre, comme c'était le cas pour Adam avant qu'il eût péché.
C'est exact. Ainsi, tu vois, salut veut dire être sauvé de la mort et non de tourment.
Mais Pierre, tu n'as pas encore répondu à mes questions au sujet du salut des âmes dont parle l'apôtre. Cela suggère-t-il un autre salut que celui d'être sauvé de la mort par une résurrection, grâce à l'œuvre rédemptrice de Christ? J'imagine que l'âme pourrait être quelque chose qui serait séparé du corps.
Non, Thomas, ton raisonnement est faux, car il n'y a aucune chose qui soit séparée du corps et appelée âme. Mais pour voir clair à ce sujet, nous devons nous reporter aux premières pages de la Bible. Là, nous apprenons que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ce fut l'union du souffle de vie avec l'organisme, ou corps, qui constitua l'âme. L'homme devint une âme vivante.
Mais alors, une âme est simplement un être vivant. Le salut des âmes est simplement le salut d'être vivant. Le salut de son âme est le salut de soi-même. Pierre, revenons à l'œuvre de Dieu durant le présent âge. Pouvons-nous dire qu'un salut spécial est offert à ceux qui sont maintenant appelés de Dieu?
Oui, Paul en parle comme étant un grand salut, et il ajoute que c'est Jésus qui en parle le premier. L'apôtre Pierre explique que c'est le grand salut auquel se référaient les prophètes qui prédirent les souffrances de Christ et la gloire qui suivrait. La gloire qui suit le grand salut.
Pierre, qu'est-ce exactement que cette gloire dont parle l'apôtre Pierre et qui, d'après les prophètes, ferait suite aux souffrances de Christ?
Eh bien, les prophéties se rapportant aux souffrances de Christ eurent leur premier accomplissement en Jésus, dans ses souffrances personnelles et sa mort. Et la Bible révèle qu'il fut souverainement élevé à une très haute position de gloire. Paul dit, bien au-dessus des principautés et pouvoirs et puissances et dominations et de tout nom qu'on puisse nommer. Jésus lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Et les disciples de Jésus doivent partager cette gloire avec lui. Est-ce exact?
Oui, c'est ce que la Bible révèle.
Mais si je comprends bien, avant de parvenir à cette haute position avec Jésus dans le royaume messianique, il faut souffrir et mourir avec lui.
C'est vrai. Et dans son épître, l'apôtre démontre que les souffrances de Christ continuent à s'accomplir dans les expériences de ses disciples qui suivent ses traces.
Et je remarque, Pierre, que dans le 4e chapitre, versets 12 et 13, l'apôtre expose magistralement cette idée, disant « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. »
De telles exhortations sont pleinement en harmonie avec l'invitation que fit Jésus à ses disciples lorsqu'il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ainsi, la voie du chrétien est bien loin d'être aisée et facile. Elle procure cependant beaucoup de joie en compensation.
Pierre, après avoir parlé du chemin étroit dans lequel marche le chrétien, l'apôtre soulève une question intéressante. Il demande « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» Quelle est la réponse à cette question ? Je remarque que l'apôtre lui-même n'y répond pas.
C'est vrai. Cependant, par une précision se trouvant juste avant le verset précité, l'apôtre nous donne la possibilité de répondre en toute connaissance de cause à la question posée. Il dit « Le jugement va commencer par la maison de Dieu », voulant dire par là, sans aucun doute, que l'âge entier a été le jour de jugement des enfants de Dieu. Jésus explique que ceux-ci n'entrent pas en jugement avec le monde.
Cela veut dire simplement que l'impie et le pécheur viendront pour le jugement ou épreuve lors d'un futur jour de jugement.
Je pense qu'il en est ainsi. Par suite des fausses conceptions traditionnelles concernant le plan de Dieu, beaucoup ont interprété la question de l'apôtre en disant que les impies et les pécheurs iront dans un lieu de tourment. Mais Pierre ne fait aucune allusion à un tel état de choses. Il ne traitait pas de la période de l'épreuve future pour le monde, aussi ne répond-il pas à sa propre question. S'il l'avait fait, sa réponse aurait été en harmonie avec les enseignements de Jésus, quand il dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour.
Qu'est-ce que le dernier jour au cours duquel la parole de Jésus jugera ceux qui sont maintenant incroyants?
Simplement le dernier jour ou âge dans le grand plan de salut de Dieu. La Bible indique qu'il aura une durée de 1000 ans.
S'agit-il des mêmes 1000 ans au cours desquels Jésus et son Église régneront?
Oui, et la Bible en parle aussi comme du jour du jugement du monde, quand les humains seront tous éclairés par la vérité et jugés selon leur loyauté ou leur déloyauté.
En d'autres termes, quand Jésus disait que sa parole jugerait les incroyants, il voulait dire que la vérité serait à la base du jugement.
C'est bien cela. Dans le psaume 96, nous trouvons une merveilleuse description du prochain jour du jugement. Et nous voyons que le Seigneur jugera les humains avec sa vérité. Ainsi, tu vois, Thomas, tandis que les fidèles serviteurs de Jésus ont durant cet âge une opportunité d'obtenir de grands saluts, tout le genre humain aura plus tard à son tour la possibilité, par sa foi et son obéissance, d'être affranchi de la mort et de vivre à toujours sur la terre. Les voies de Dieu sont merveilleuses, n'est-ce pas, Thomas?
Vraiment, elles le sont, Pierre. Pendant que je t'écoutais, j'ai pensé combien il est réconfortant de comprendre qu'en dehors de la faillite apparente de la chrétienté durant cet âge, apparaîtra bientôt le glorieux triomphe du plan divin, quand la connaissance du Seigneur remplira la terre entière comme les eaux couvrent le fond des mers. Et amis, ce sont des faits encourageants de cette nature que vous trouverez dans la brochure « L'espérance du chrétien ». Elle donne l'essentiel des écrits de Jacques, Pierre, Jean et Jude. De plus, elle répond à diverses questions telles que « Quels sont les derniers jours ? Quand et comment Christ reviendra-t-il ? Qu'est-ce que la fin du monde ? Les vivants peuvent-ils parler avec les morts ? La Bible parle du diable et de ses anges. Qui sont les anges du diable ? Pourquoi le monde n'a-t-il pas été converti durant cet âge ? Ces questions vous donnent une idée de l'importance et de la portée des divers sujets traités dans la brochure « L'espérance du chrétien ». Cette brochure vous sera envoyée sans aucun frais de votre part. L'émission que vous venez d'entendre, se rapportant à l'étude de la Bible, vous a été transmise par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, éditeur des publications Aurore, en collaboration avec les groupes locaux d'études de la Bible et les amis de Pierre et Thomas de partout. Nous serons avec vous de nouveau la semaine prochaine. Dites-le à vos amis, s'il vous plaît, et que Dieu vous bénisse tous.